Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC débrief la cinquième manche de la saison à Jeddah en Arabie Saoudite. On est mardi, on s'excuse, vous n'avez pas eu le podcast hier, mais on était tous en train de manger du chocolat. Enfin pas tous, mais en tout cas il y en a qui étaient en train de manger du chocolat. Du coup on n'a pas pu vous proposer l'épisode, mais on va se rattraper aujourd'hui avec un podcast énorme. Il s'est passé plein de choses en Arabie Saoudite. On a un nouveau leader du championnat, une passation de pouvoir qui marque peut-être un tournant déjà de cette saison 2025, hein, même si on reste encore très loin de l'épilogue. Mais il peut se passer encore beaucoup de choses. Mais ce Grand Prix d'Arabie Saoudite marque aussi le retour de Ferrari. Ferrari qui respire un peu mieux. C'est pas encore grandiose, mais en tout cas, ils sont là, les pilotes Ferrari. Enfin, surtout un, Charles Leclerc. Max Verstappen, lui aussi, est toujours là. On va le renommer Magic Verstappen parce qu'il est vraiment incroyable. Isaac Hadjar est rentré dans les points une nouvelle fois après une course incroyable. On va débriefer tout ça avec notre team principal qui est rentré chez lui à Miami. Salut Jean-Luc Roy.
Hello boy, how are you?
Jean-Luc n'arrête pas de crâner en antenne parce qu'il fait 27 degrés chez lui là. Oh là là, vraiment.
Mais quel crâneur, non, je crâne pas mon Nico, je vous apporte un rayon de soleil, c'est mieux quand même.
C'est encore pire. Tu sais que cette phrase c'est encore pire, c'est de l'humiliation.
Bon, alors qu'est-ce que je vais dire? Yop la boum.
Non mais ouais ouais. Tes deux ingénieurs du jour, mon Jean-Luc, Alex Caldi ouais. Et Louis Gerbier. Salut les gars.
Hello.
Salut les gars, salut tout le monde.
Salut les gars, quel talent. Bon, c'est que j'échauffe un peu là.
C'est quoi la météo parisienne, vous? 27 degrés aussi, comme Jean-Luc,
ouais,
à Miami.
Ouais, moins 15 degrés là.
Ouais, allez. D'accord, allez.
Il fait gris, on surtout, il fait gris. C'est bon.
Je vous rappelle
allez,
que
va,
si vous
venir,
nous.
Ça
va venir, les gars. Je vous rappelle que si vous nous écoutez pour la première fois, hein, le paddock est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Qu'on attend votre note sur 5 étoiles, c'est super important pour le podcast. Et nous, on va en profiter pour donner une petite note sur 5 à ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Je commence par le patron, Jean-Luc. Quelle petite note tu donnes à ce Grand Prix d'Arabie Saoudite?
Ah, alors écoute, on a fait dans la mièvrerie la demi-mesure les dernières fois. Bah, je vais me mouiller un peu quand même parce que pour moi c'est un tournant du champ. C'est par demi-point ou par quart de point? Tu vois, je demande une précision importante.
Oh bah je sais pas, écoute, j'allais dire demi-point, mais si t'as envie de mettre un quart de point, tu peux innover. Bah, hein, tu peux innover.
Je mets un bon 3,5 allant vers les 3,75, tu vois, et je vais expliquer.
Allez.
Pourquoi.
Ok, ouais, très bien. Les gars.
Alex, c'est sur 10?
Sur 5.
Sur 5.
Oh là là. Ça, si oh le cruel.
Si c'est sur 5, on va être sur un demi, quoi. Voilà, c'est.
Ouais, bah voilà,
moyenne,
comme
la moyenne.
Moi, je suis plutôt Team Alex là. Je me suis pas régalé.
Ah, moi j'aurais mieux.
Eh ben,
c'est intéressant, mais voilà, on va pas se dire waouh, on s'est régalé. Non,
ouais, non.
C'est un grand prix.
Oh,
formule.
Je vous trouve dur. Moi j'étais sur le même truc que Jean-Luc, un petit 3,5. Moi j'étais. Oh, enfin bon. Bon, bah débriefer tout ça, les gars. Allez, c'est parti pour ce paddock RMC, débrief du Grand Prix d'Arabie Saoudite.
Le paddock RMC.
Le classement de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, Oscar Piastri, 5e victoire de sa carrière en Formule 1, qui s'impose une nouvelle fois après Bahreïn et qui marque les esprits. 2,8 secondes d'avance sur Max Verstappen, qui a encore fait un week-end de fabuleux. Premier podium pour Charles Leclerc et sa Ferrari, 3e. Ça fait un bien fou à Leclerc. Lando Norris, on va en parler en long, en large, en travers de Lando Norris, qui s'est manqué en qualification et qui arrive malgré tout à arracher une 4e place à seulement un petit peu plus de 9 secondes. De son coéquipier Piastri peut avoir énormément de regrets. Les Mercedes ont été un peu plus en galère ce week-end. George Russell 5e et Kimi Antonelli 6e, mais à 30 secondes de la tête de la course. Lewis Hamilton, alors lui aussi il commence à traîner son spleen, le septuple champion du monde 7e. Carlos Sainz 8e, qui a fait une superbe qualification, qui termine la course devant son coéquipier Alex Albon et notre français Isaac Hadjar, qui va chercher le point de la 10e place après être parti 14e. Les autres enseignements de cette course, Fernando Alonso échoue à la porte des points devant Liam Lawson. Esteban Ocon, qui partait très loin, termine 14e. Et puis un incident au premier tour a été marquant dans cette course entre Yuki Tsunoda et Pierre Gasly, alors que Pierre Gasly avait encore réussi à passer son Alpine en Q3. Donc beaucoup de regrets pour Pierre. Le classement des pilotes au championnat du monde, Oscar Piastri, donc, qui prend la tête, 10 points d'avance désormais sur Lando Norris. Norris, il a 99 points, 89 points pour Norris. Max Verstappen est toujours en embuscade, 87 points. Il est donc à 12 points de Piastri. Derrière, George Russell, 73 points. Et Charles Leclerc, qui commence à scorer là sur ses dernières courses, qui consolide sa cinquième place avec 47 points devant Andrea Kimi, Antonelli, Isaac Hadjar avec son petit point, qui a le même total que Carlos Sainz et que Yuki Tsunoda, 5 points pour notre Français au compteur. Et puis au niveau des constructeurs, McLaren, bien évidemment, qui déroule, hein, 188 points. 111 points pour Mercedes. Red Bull est troisième avec 89 points. Et Ferrari recolle sur Red Bull avec 78 points. Ils sont plus qu'à 11 points de l'écurie autrichienne. Voilà, sinon, ça n'a pas beaucoup bougé derrière entre les différentes écuries. Williams qui consolide sa cinquième place devant Haas avec 25 points. Voilà pour les principaux enseignements comptables de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite. Jean-Luc, oui. Parlons de cette victoire de Piastri, la cinquième de sa carrière. Piastri qui a réussi un superbe départ, qui partait deuxième sur la grille. Il y a eu une vraie bagarre, enfin en tout cas, voilà, une bagarre que Piastri a maîtrisée, a dominée, parce qu'il y a eu un fait de course, une pénalité pour Verstappen. Tu vas nous raconter tout ça. En tout cas, l'Australien a été encore une fois ultra solide et Verstappen lui-même l'a reconnu.
Alors ok mon Nico, donc je réponds à toutes tes questions, il y en a beaucoup,
qu'il y en a
et
beaucoup.
Je vais également essayer d'expliquer pourquoi ma note est peut-être un peu élevée, j'en conviens, mais c'est parce que je suis un indéfectible optimiste. Alors la première raison déjà, c'est qu'on assiste à l'éclosion d'un vrai talent, et je ne vais pas vous surprendre, hein, on en a parlé dès l'an dernier, rappelez-vous, ça fait toujours vieux naze, mais ça ne fait rien. Je pensais que Piastri avait la force mentale, la détermination, que c'était un killer, bah, il est en train de le démontrer, c'est-à-dire... Pour moi, c'est un symbole de passation de pouvoir. Alors attention, je ne vais pas vous dire, bah, ça y est, il va complètement écraser Norris. Non, non, il y aura des sursauts, il y aura des rebondissements, il y aura... Mais il est vraiment en airain, il est vraiment en acier trempé. Et là, il l'a démontré en étant... Bon, ok, il se fait piquer la pole, et il était vert d'ailleurs, hein, vert de rage d'avoir perdu cette pole pour un centième de seconde. Il s'est dit, ah ouais, là, on a affaire à un bras de fer, et c'est ça qu'on aime, entre deux très grands champions. Alors, vous allez me dire, il y en a un, il a à peine 5 victoires et 2 pôles. Et oui, oui, mais c'est un champion en devenir, c'est une évidence. Ça prendra le temps que ça prendra. Et puis même Verstappen lui a rendu hommage, et a rendu hommage, vous le savez bien, à Mark Webber, hein, son consultant, qui par parenthèse, et son manager, qui par parenthèse était le dernier Australien à avoir mené un championnat du monde en 2010, ça ne nous rajeunit pas, il y a 15 ans. Non, il est vraiment... phénoménal. Et en plus, on a eu le bras de fer direct entre les deux. Au moment du départ, il ne s'est pas dégonflé. Alors après, chacun interprète comme il veut la pénalité à qui... Bon, il ne lui a pas laissé de place à Verstappen, mais Verstappen a coupé, il a gagné un avantage. La sanction était finalement logique. Bah écoute, on s'est quand même battu. Moi, je trouve ce Grand Prix intéressant, et même un peu plus que ça, je dirais passionnant, parce que l'écart, c'est rien, on termine à 2 secondes 8. Hein, et ça veut dire que là aussi, bah, la Red Bull est en train de refaire une partie du retard, et ça nous donne quand même une belle ouverture pour la suite du championnat. Parce qu'imaginez qu'il n'y ait que les deux hommes de chez McLaren, bah là, je vous réponds tout de suite, c'était plié, c'était pour Piastri. Donc voilà pourquoi je suis relativement optimiste.
C'est vrai qu'il y a cette pénalité de Verstappen, là, les 5 secondes après ce départ que Piastri prend très bien, Alex, et où Verstappen force un petit peu, enfin en tout cas il lui laisse pas la place, il coupe le virage et donc du coup les commissaires lui demandent rendu la position, ouais, voilà. donc du coup vu qu'il a pas rendu la position, ils lui ont mis 5 secondes de pénalité. Est-ce que cette pénalité pour toi elle est justifiée, et comment t'as vécu toi le week-end d'Oscar Piastri, comme le dit Jean-Luc? Voilà, c'était pas comme à Bahreïn où il a dominé de A à Z, où il fait pole, meilleur tour, victoire. Là, il partait mine de rien derrière Verstappen. Il y avait la déception d'avoir loupé la pole pour 10 millièmes, pour un centième. Et malgré tout, il fait un super départ. Et puis derrière, dans la gestion de course, il est impeccable, quoi. Tu sens que même s'il y a Verstappen qui est à 2 secondes 8, tu le sens même pas inquiété, en fait, Piastri, encore.
Il était en gestion, mais même dans un premier temps, par rapport à cette pénalité de Max Verstappen, je trouve qu'elle arrive en fait trop tard dans l'exécution. Il y a eu la safety car, et en fait on se disait il faut vraiment qu'il donne la pénalité et qu'il prenne une décision avant justement que la safety car se termine après le crash de Gasly et de Tsunoda, et finalement ils la prennent juste après le restart, et en fait c'est ça en fait qui plombe un petit peu, je veux dire, la bataille dans ce Grand Prix. C'est le manque de rapidité dans l'exécution, alors qu'on savait très bien la pénalité qu'il allait avoir. Verstappen a coupé, Verstappen a gardé la tête, et derrière la pénalité elle est presque justifiée, même si d'ailleurs ils ont expliqué qu'ils ont mis 5 secondes et non 10 secondes parce que c'était une action au premier tour et qu'il fallait être clément dans ce genre de situation, ce qui est pour le coup une très bonne décision justement. Après, pour ce qui est d'Oscar Piastri, il a gagné ce Grand Prix, oui, mais il ne l'a pas gagné dans la facilité que la McLaren on pouvait prétendre justement par rapport à cette j'ai envie de dire du fait que c'est la meilleure voiture de la grille. Non, il a dû cravacher quand même pour aller chercher Max Verstappen, parce que si on regarde l'ensemble de ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, le rythme de course, il est à l'avantage de Max Verstappen avec sa Red Bull, et non à l'avantage justement d'Oscar Piastri. C'est Verstappen dans la globalité sur le rythme de course qui était meilleur justement qu'Oscar Piastri. Preuve que justement à l'heure actuelle, McLaren n'est pas si, j'ai envie de dire, solide, ou peut-être pas aussi en avance que l'on pouvait penser par rapport à Max Verstappen, et non pas Red Bull en particulier, mais plus par rapport à Max Verstappen, et notamment même par rapport à Oscar Piastri, plus particulièrement, moi je vois juste un Oscar Piastri qui a pris le pouvoir chez McLaren. Et là aujourd'hui, il prend la tête du championnat du monde. Lando Norris a vécu un week-end de Grand Prix, on va en parler après, mais avec un week-end de Grand Prix, parce qu'il se complique la vie, alors qu'il a le rythme justement sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite pour aller s'imposer sur Oscar Piastri, et bien sûr même pour pouvoir aller chercher aussi Max Verstappen. Mais Oscar Piastri, lui, c'est la solidité incarnée. Aujourd'hui, sur ce début de saison, c'est lui le meilleur pilote avec Max Verstappen. On pensait que c'était Lando Norris qui allait prendre un leadership très naturel, ou du moins garder ce leadership naturel du côté de chez McLaren. Finalement, non. Et je rejoins aussi ce que dit justement Jean-Luc par rapport à Oscar Piastri. C'est la naissance d'un règne qui peut arriver aujourd'hui. C'est peut-être le premier jour du règne d'Oscar Piastri sur la Formule 1. Il devient pour la première fois de sa carrière leader du championnat du monde, et il prend aussi un leadership très naturel aujourd'hui du côté de chez McLaren, parce que il a montré tout ce qu'il faut pour être leader de McLaren: solidité, le fait d'être intouchable, et le fait aussi de savoir gérer dans les moments importants. Et cet opportunisme incarné par Oscar Piastri, par ce calme dès sa troisième saison en Formule 1, la première où il peut prétendre au titre mondial aujourd'hui en ayant la meilleure voiture, il montre tout ce qu'il faut pour justement aller chercher un titre mondial et se battre contre Max Verstappen, au-delà même d'aller chercher Lando Norris.
Louis, on en parlait déjà la semaine dernière, et on se disait on attendra de voir quand Piastri prend la tête du championnat, les décisions désormais de McLaren, qui l'écurie va privilégier, ou en tout cas si ça va changer des choses un petit peu dans l'approche des courses pour l'écurie. On y est. Est-ce que toi ça change tout, le fait que Piastri ait réussi à basculer et à prendre le leadership devant Norris au niveau comptable?
C'est peut-être encore un tout petit peu tôt, mais comme l'a dit Jean-Luc, c'est peut-être un tournant. Souvent quand on dit ça, on a la réponse qu'un peu après, donc on aura la réponse dans quelques grands prix, mais ça peut clairement être un tournant, parce que c'était la dernière chose qui lui manquait sur ces dernières semaines. C'est-à-dire qu'on sentait bien Norris sur une pente, je sais pas si elle était descendante, mais du moins dans des troubles, dans un moment compliqué. Et Piastri, qui lui était toujours très solide, on le disait de plus en plus, et là maintenant il l'est dans les points. Donc maintenant, Testella et Brown, tu réfléchis à deux fois, et ça va commencer pour eux à être très compliqué à gérer, parce que t'as mille choses à gérer là-dedans. Les égos, c'est un détail, c'est toute la com derrière, c'est toute la réalité.
Surtout pour une écurie qui prône le « on est une famille, on est ensemble
oui. ». Exactement. C'est-à-dire que le storytelling de McLaren depuis ces années-là, comme le dit Alex, c'est ça, quoi. Et donc du coup maintenant, il va falloir faire des choix de fait, et les choix, ça va être très très compliqué de les faire, et ça arrangerait peut-être certains chez McLaren que ça se clarifie vite avec un Norris qui remonte pas. Juste, tu vois, pour les lâches de chez McLaren, tu vois, au moins on n'aura pas à choisir. Pour ceux qui ont du courage, eux, ils préfèrent que les deux performent au max, et ils feront les choix au moment venu. Mais juste pour revenir très rapidement sur Red Bull, sur Red Bull et ses 5 secondes, quand tu finis, comme le disait Jean-Luc, à 2 secondes 8, tu te dis que c'était peut-être une belle boulette quand même de pas rendre la place. Parce que, peut-être que quand même Piastri, avec de l'air propre sur le premier stint, il serait plus envolé. Sûrement. Mais quand même, quand tu te dis, tu vois, si tu veux faire des maths bêtes et méchantes, 5 secondes, 2 secondes 8, c'est quand même trop bête, quoi. Et donc là-dessus, tu te dis, tu sais aussi que Verstappen, avant de rendre une place dans ces situations-là, surtout parce que dans le passé, sur des situations très chaudes, lui qui ose toujours beaucoup, il a été rarement pénalisé, récemment beaucoup plus. Comme si, tu vois, il payait enfin sa réputation, ou on le rattrapait un peu finalement. Et donc, du coup, il était hors de question pour lui de rendre cette place. Et moi je pense que c'était une erreur.
Ouais, c'est vrai que la stratégie de garder la place, elle pouvait se poser. Ils ont essayé de plaider au maximum. On va les entendre d'ailleurs hein, sur ça. Mais écoutons d'abord Oscar Piastri au micro de nos collègues de Canal+ après sa victoire.
Yeah, very happy. I think, you know, it was
je suis très très heureux. Ça a été une course difficile aujourd'hui,
yeah,
une belle bataille.
On
avait un rythme super rapide. J'étais un peu méfiant car à la fin du relais en médium, Max était plus rapide que moi et je n'avais pas assez de rythme à ce moment-là, donc un peu méfiant. Mais je suis fier du travail que nous avons fait ce week-end. C'est super de partir d'ici avec une nouvelle victoire. Je suis encore plus fier parce que nous menons le championnat. Nous allons faire en sorte de garder cette forme, de continuer à avancer. La saison reste longue et il reste encore beaucoup de courses à faire. Il faut qu'on garde ce momentum et il faut qu'on continue à avoir des week-ends comme celui-ci. Voilà, toujours très juste, Oscar Piastri. Pas très démonstratif comme d'hab. Même s'il a un peu plus d'émotion quand même. Hein, le fait qu'il ait pris la tête du championnat, tu sens que c'est quand même un événement marquant, même pour lui.
Moi, je me posais la question hier. Est-ce que ça va changer son attitude d'être aujourd'hui le pilote à battre, Oscar Piastri?
Non. C'est sûr que non.
Moi, je pense
pas. Il a dit, je suis en tête du championnat, mais ça importe peu. Je veux gagner toutes les courses, les unes après les autres. Voilà.
C'est vrai que tu sens que bon, il est programmé peut-être pour autre chose lui, et que c'est pas quelque chose qui.
Pour le moment, on le sent complètement hermétique à tout ça. On verra, hein, ça peut changer,
mais je pense qu'on peut changer très vite.
Oui, c'est vrai.
Jean-Luc, parlons quand même de Verstappen qui fait une qualif, une qualif grandiose quand même samedi, qui arrive à pousser une nouvelle fois les McLaren totalement dans leur retranchement. Franchement, il fait encore un magnifique week-end dans la lignée du week-end qu'on avait vu au Japon à Suzuka.
Mais exactement, mon Nico, il fait un week-end abouti, il fait un week-end formidable, il part de nulle part. Hein. Il faut rappeler en début de Grand Prix, en début de week-end, il a du mal à la mettre au point, il ne sait pas trop dans quel sens ça va, il joue pas, c'est la réalité. Et puis à force de travailler, à force de réfléchir, à force de trouver des solutions, comme par hasard, comme le phénix, paf, au moment de la qualif, il sort un tour de folie. Et encore une fois, il suffisait de voir la tronche, il n'y a pas d'autre mot, de Piastri, qui croyait bien l'avoir, cette pole. Ah, il se dit, le diable, il a encore sorti quelque chose de la boîte absolument ahurissant. Oui, donc je l'ai dit en direct hein, sur RMC, c'est un tour à la Senna, encore une fois, comme celui du Japon. Et comme par hasard, ça se produit sur des circuits référence, parce que le Japon, Suzuka, je ne vais pas vous le revendre, c'est trop tard, et puis on le connaît, mais Jeddah, qui est effectivement, c'est ce qu'il revendique, en tout cas le circuit le plus rapide en ville, au ras des murs, où la moindre erreur se paye cash, comme ça a été le cas pour Norris, non, il a encore fait un exploit personnel absolu. Alors c'est vrai que la Red Bull, je suis d'accord avec vous, elle a bien progressé, et tant mieux, et on l'a vu d'ailleurs avec Tsunoda, hein, qui n'était pas largué du tout, ma foi, il fait top 8, c'était son deuxième Grand Prix, bon après il y a l'accrochage, c'est autre chose, mais je veux dire, il était dans le coup pour marquer des bons points pour l'écurie et pour faire le boulot. Donc ça veut dire que globalement, malgré tout, chez Red Bull, on progresse, sûrement évidemment à l'initiative personnelle de Verstappen hein, qui fait le boulot. Et c'était marrant le conseil d'ailleurs presque public d'Helmut Marko en lui disant « t'occupe pas des remontées qu'on a, fais le boulot comme tu sais le faire avec ton feeling ». Il n'avait pas besoin du conseil de Marko pour faire ça, hein, le Verstappen, il avait compris. Donc encore une fois, je vous dis, c'est l'intérêt du championnat pour moi. C'est-à-dire que sinon, Nico l'a rappelé en ouverture, hein, McLaren se balade le coude à la portière, 188 points et 111 pour Mercedes, et t'as vu Mercedes en difficulté, et Red Bull jusque-là avec un seul pilote, ils ont la moitié des points, ça y est, repos, pouvez dormir. Mais non, heureusement, on a Verstappen qui est là. Et puis peut-être, on en parlera plus tard, peut-être le retour du Cavallino Lampante et on a fait un podium. Donc j'y vois des motifs d'optimisme. Et pour revenir sur Verstappen, c'était la question. Écoute, il est à son niveau, ça reste le meilleur pilote du monde. Et moi j'ai apprécié ce respect mutuel ils ne sont pas accrochés, mais ils sont frictionnés entre les deux hommes. Tu sais, ils se reniflent hein, dans la jungle les deux. Et là, Verstappen, il a dit lui, c'est un vrai, lui. Lui, on va s'arsouiller, on n'a pas fini de s'arsouiller.
Lui, tu sens qu'il y a deux lions, un peu qui se partagent l'antilope, quoi. C'est un peu ça le truc.
C'est un peu ça. C'est l'antilope?
Max Verstappen. Ah, ça, je vous dirai pas. Ça, je vous laisse imaginer. Max Verstappen au micro de Charlotte Gabas, notre collègue de Canal. On l'écoute.
Max, has the anger died down a little bit?
Max, est-ce que la colère est redescendue après la pénalité?
I have no emotion.
Non, franchement, j'ai pas d'émotion, je suis pas en colère. Et chaque mois qu'on prononce à ce sujet, de toute manière, ça nous mène nulle part. Donc, le point positif, c'est que bah, dans l'ensemble, c'était pas mauvais. Sur cette piste avec peu de dégradation, donc je suis bien sûr content de ça. Et dans l'ensemble, évidemment, ça a été un week-end très positif. Voilà. Bon, il n'y avait pas trop envie de s'éterniser sur cette pénalité.
On dit le mot caca, on se fait pénaliser. Donc bon.
C'est donc, ça, tu prends 10 000 alors. À ce tarif-là, déjà, tu mesures tes propos.
Mais déjà que dans la voiture, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette communication radio là, quand l'écurie lui transmet la pénalité et qu'il commence à être un peu vulgaire et que son ingénieur lui dit non, allez, vas-y, ok, d'accord, Max, allez, reste concentré.
Non, par contre, Louis, ce week-end, il y a un truc par rapport à Verstappen, excuse-moi, c'est les points de pénalité. Hein. J'étais en train de regarder ça, il en a comme 8. On rappelle que s'il se prend 4 points de plus, il se fait pénaliser. Enfin, il se prend un wristband.
Ah oui, sur son permis.
On va lui retirer son permis, quelle horreur.
Et que les premiers points qui vont lui être enlevés, donc il va descendre en dessous des 8, c'est au mois de juin. Hein. Donc, faire attention quand même.
Oui. Ça me fait rire, ce truc-là, mais bon, c'est autre chose. On se croirait sur la route, c'est te dire, c'est l'horreur, quoi.
Ah. Ouais. D'ailleurs, faut qu'on regarde, au niveau de votre permis, moi, je sais pas combien j'en suis.
Ça va, Nico, ça va.
Peut-être demander, moi.
Non, ça va.
J'ai mis 10 ans.
Il y a des gendarmes qui nous écoutent.
J'ai 10 ans à avoir mes 12 points, moi.
Que tu sais, je peux te dire.
J'avais le malheur de prendre une amende pendant le probatoire et derrière, ça a été un enfer. Mais depuis, je les ai, je les garde.
Ça t'empêche pas de rouler comme t'as envie, mais tu te fais pas choper, c'est tout.
c'est le boulot. C'est toi qui le dis.
Bah ouais.
Louis, ce week-end de Verstappen encore, parce que c'est lui, franchement, qui anime tous nos week-ends depuis le début de la saison. On va pas se mentir, qu'on attendait tellement.
Il nous l'a animé aussi. Hein.
Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que pour le titre, pour les victoires, on attendait tellement de Ferrari avant de débuter la saison qu'on a été profondément déçus. Le seul qui arrive quand même à nous challenger tous les week-ends et à nous offrir du suspense, de la bagarre et à nous tenir en haleine, c'est Max Verstappen. Et ce qu'il a encore fait ce week-end, mine de rien, ça reste encore fabuleux.
Ouais, il est très impressionnant. Moi, je suis dans une phase un peu comme à l'époque de Djokovic que j'aimais pas trop, où à la fin tu finis par dire bon. Je suis pas fan, mais franchement, mec, qu'est-ce que t'es fort. Tu vois,
t'es... Bah, il est en train de mettre tout le monde d'accord. Que t'aimes pas la personnalité du bonhomme ou pas, t'étais obligé de t'incliner devant son talent.
Exactement.
En fait.
Voilà. Bah, tu vois, j'ai même pas besoin d'en dire plus. C'est exactement ma pensée. C'est vraiment là, il sort des trucs et c'est tellement mis en relief quand tu n'as pas la meilleure voiture d'arriver à faire ça. Peut-être que dans des années, la légende de Max Verstappen, on parlera autant de ses courses ou peut-être une année où il n'a pas été champion, mais il a tellement fait des merveilles dans la quatrième voiture, plus que son année où il gagne je ne sais pas combien de grands prix parce qu'on se dit finalement c'était trop facile pour lui. Quoi, tu vois. Cette saison sera peut-être dans sa légende, aura peut-être une importance égale à celle où il a remporté des titres alors que ça se trouve, il va le faire parce que finalement, moi j'y crois pas, mais on a des paddocks à faire jusqu'à la fin de la saison, il faut bien un peu de suspense, mais voilà quoi, tu vois, donc Verstappen, voilà, on bend the knee, on se met à genoux.
Et on a quand même l'impression, Alex, que, et les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais Alex, tu vas me dire ce que tu ressens. Red Bull, avant chaque Grand Prix, nous, à chaque warm-up, on se dit, bon là, ça commence à être chaud, ce qui se passe en interne, les propos de l'entourage de Verstappen, les sorties d'Helmut Marko, Christian Horner, bon, on connaît de toute manière tout ce qui se passe dans les coulisses de cette écurie-là, et à chaque fois, on se dit, au bout d'un moment, c'est plus tenable, ils vont finir par plier, ça va rompre tout ça, et on se disait qu'après Bahreïn, c'était peut-être le bon moment. Et bien là, ils arrivent encore à retrouver de la performance, à avoir un Verstappen qui est toujours au rendez-vous. Mmh. T'as l'impression que c'est une équipe qui est dans la survie totale depuis peut-être un an et un peu plus d'un an. J'exagère, mais bon, on n'en est pas loin. Et qui, à chaque fois, arrive à se remettre dedans.
Bah, ils arrivent à se remettre dedans parce que Verstappen est monstrueux. Hein. Heureusement que Verstappen est là, parce que sinon, Red Bull, ça devient une équipe qui n'est plus un top team, d'ailleurs, hein, qui ne se bat même plus pour le titre mondial. Surtout pilote, hein, l'équipe, on peut carrément l'oublier, mais surtout pilote. Verstappen fait vivre Red Bull, Verstappen fait survivre Red Bull, parce qu'il y a cette manière, moi, qui m'impressionne aussi. C'est surtout que j'ai rarement vu, je pense, dans dans les dernières années en Formule 1, un pilote qui est autant imperturbable et qui est autant imperméable, peu importe ce qu'il se dit sur son avenir à lui. Et il l'a dit notamment, il l'a rappelé juste avant le Grand Prix d'Arabie Saoudite, il a dit tout le monde parle de mon avenir sauf moi. Et même d'ailleurs, même tout le monde parle de Red Bull sauf moi, même d'ailleurs par rapport à Max Verstappen. Et que à chaque fois il vient surprendre, à chaque fois il vient montrer qu'il est aujourd'hui le meilleur pilote du monde et même de très très loin, parce que produire à ce tel niveau de performance et toujours être dans l'obligation d'être à 200-250% de la voiture, alors que sa concurrence directe c'est Oscar Piastri. Piastri gagne le Grand Prix non pas, on va dire, avec le portière sur le coude sur la portière, mais il le gagne d'une manière un peu plus nettement tranquille parce qu'il sait qu'il a la meilleure voiture et qu'il sait qu'il peut performer d'une manière un peu plus aisée et d'une manière un peu plus tranquille. Verstappen est toujours obligé d'être à 250%, de faire des surperformances absolument exceptionnelles qui montrent encore une fois pourquoi il est le meilleur aujourd'hui. Et que en fait finalement, si Verstappen n'est plus là, on n'a plus un Red Bull qui peut prétendre à battre McLaren, qui peut prétendre justement d'ailleurs ne serait-ce qu'à battre Ferrari et même à battre Mercedes. Et que heureusement que Red Bull a Verstappen, parce que même au-delà même de 2025, pour 2026, s'il reste effectivement Verstappen, je ne sais pas comment ça va devenir Red Bull. Et puis même ne serait-ce que par rapport aux améliorations qui peut arriver du côté de l'écurie, j'ai l'impression que Red Bull c'est le nouveau Olympique Lyonnais. C'est le FC, on fait des réunions tout le temps. C'est le FC.
Ouais, c'était le FC, on se fait éliminer.
Ouais, on se fait éliminer aussi. Mais voilà, c'est on fait des réunions tout le temps. Horner qui dit on a fait une réunion pour préparer une autre réunion, pour ensuite préparer une autre réunion pour préparer la voiture pour le Grand Prix d'Espagne, c'est tout le temps ça. Et en fait, c'est un bazar. On a l'impression tout le temps du côté de chez Red Bull où il y a une incompréhension.
Ouais, mais c'est un bazar. Je suis d'accord avec toi. C'est un bazar total, mais au final, t'as un gars qui arrive à te porter les
curies
et ça leur donne un peu raison.
Il porte l'écurie, mais au bout d'un moment, je pense que Verstappen, il va en avoir marre. Il vient faire ça pendant peut-être une saison, mais si la deuxième, surtout avec la nouvelle ère de la Formule 1 2026, où il y a beaucoup, beaucoup d'inquiétudes justement par rapport au nouveau moteur et par rapport à la nouvelle réglementation vis-à-vis de la voiture sur le côté aéro, que Verstappen, je pense que si l'année prochaine, au début de saison, s'il est chez Red Bull, encore bien sûr, ça reste compliqué. Ouais, là, c'est tcha-tcha. Il n'y a aucun intérêt pour le meilleur pilote du monde qui se bat pour le titre mondial de rester dans une écurie qui ne peut pas prétendre au titre mondial. Ça ne sert à rien, c'est jamais bon.
Oui. Oui, ça c'est sûr.
Il y en a qu'un
les
qui
gars,
l'a fait,
on va décortiquer.
Bon salaire aussi, mais bon, ça
c'est vrai. Peut-être pas le meilleur choix de carrière, ouais. Fabio. Les gars, décortiquons quand même, Jean-Luc, la course de. Enfin, le week-end, parce qu'on va parler du week-end de Lando Norris. Pas que sa course, parce que sa course, elle est plutôt bonne. Mais Lando Norris qui se met dans le mur en Q3, qui se met à la faute et qui part donc 10e et qui annule toutes ses chances pour la course du dimanche. Ce qui est terrible pour lui, Jean-Luc, c'est qu'on a la sensation que c'était peut-être lui le pilote qui allait le plus vite et qui avait le meilleur rythme dans les deux McLaren, qui pouvait prétendre à la victoire. Mais cette erreur, ça lui coûte encore tout le week-end, quoi. Et dans la dynamique du moment, c'est dur pour Norris, là, hein, quand même.
C'est clair. Ben, il n'était pas dans la même position non plus, hein, mon Nico. Effectivement, dans un cas, tu gères et tu sais ce qui va se passer, puisque à partir du moment où la pénalité avait été annoncée, Piastri savait ce qu'il avait à faire, c'est-à-dire se retrouver devant au moment de l'arrêt de Verstappen. Donc, il a fait ce qu'il fallait. Et là aussi, du moment qu'il termine avec une seconde d'avance, il a fait le boulot. Il n'était pas obligé de surpiloter, alors que Norris, oui. Ouais. Alors, je l'ai déjà évoqué dans le passé. Je me demande, ça ne me regarde pas encore une fois, mais si Norris n'est pas déstabilisé par d'autres éléments que la Formule 1. Je suis désolé d'y revenir, hein, mais quand un pilote comme ça est perturbé, il n'est pas serein, très clairement. Or, en Formule 1, il n'a aucune raison de ne pas être serein, puisque c'est lui, vous l'avez rappelé abondamment, et vous avez raison, c'était lui, normalement, le challenger au titre. Hein. Enfin, c'était non dit, mais c'était comme ça que ça devait se passer. C'est lui qui avait été le vice-champion l'an dernier. Bon, c'était lui le golden boy. Il est dans l'équipe depuis je ne sais combien de saisons maintenant, même s'il n'a que 25 ans. Bon, et puis il s'avère que, il a à côté de lui, le vilain petit canard qui, sans faire de bruit, sans déclaration intempestive, sans rien, fait le boulot, mine de rien, avec déjà deux pôles. Il a autant de victoires que lui. Hein. C'est ça qui est quand même ahurissant, parce que là, la comparaison est un peu douloureuse, hein, quand même, pour le coup, pour Lando, qui était censé être le Golden Boy, je le répète. Donc, il est perturbé, manifestement. Il a beaucoup moins de force mentale que n'en a Piastri, et ça, on l'avait encore une fois souligné dès la fin de saison dernière, et je pense que ça se confirme. Il va falloir qu'il se reprenne, qu'il se regroupe, hein, parce que là, cette sortie de piste, on peut pas... Là aussi, c'est évidemment, quand on est à quelques millimètres des murs, et à un moment, on tente, là, il a tenté en Q3, il a trop tenté, il a effectivement tout perdu. Bon, après, il fait une très belle remontée, mais il n'a pas le choix, avec, je le répète, et il ne veut pas qu'on le dise, mais on s'en fout, la meilleure voiture, encore. Donc... Il fait le boulot, c'est normal, il a le meilleur tour en course, hein, pas de beaucoup, mais il l'a. Mais en revanche, rappelez-vous, il a buté un moment sur Hamilton, qu'il a repassé. Il a été un peu quelques. Il n'est pas tranchant dans ses dépassements. Il n'est pas. Et là, il bute sur Leclerc, sur la fin. Donc, c'est un très bon pilote, hein, j'ai toujours dit la même chose, mais pour moi, c'est pas vraiment un champion. Voilà, c'est résumé, c'est cruel. Alors, vous allez me dire, et je serai le premier à dire, je balaye devant ma porte dans trois Grands Prix s'il aligne trois victoires à venir, mais j'y crois pas.
Est-ce que c'est la faute de trop là, les gars, Alex, cette erreur en qualif. La faute de trop, c'est un peu dur, mais en tout cas, est-ce que là, quand même, dans la tête des boss de l'écurie, dans la tête de Zach Brown, de Stella, tu te dis pas, bon, on l'a quand même protégé, on l'a responsabilisé, on l'a priorisé aussi.
Choyé, bien sûr.
Voilà, bichonné, tu vois. Là, il y a un moment, en fait, il n'a plus le droit à l'erreur. Là, après ce week-end-là, là, et cette nouvelle erreur, c'est terminé, quoi.
Plus le droit à l'erreur, je pense que oui. Par contre, c'est aussi à McLaren aussi de l'aider et de le remettre dans des bonnes conditions pour qu'il puisse performer. Encore une fois, je rappelle, Lando Norris, c'est pas un mauvais pilote, c'est pas
un très bon
pilote. Il y en a sur les réseaux sociaux, ils disent que c'est une fraude. Bref, je comprendrai jamais tout le bashing qu'il y a autour de Lando Norris. Parfois, il y a des déclarations qui sont incomprises. C'est totalement injuste. Je comprendrai jamais en fait tout ça. Mais et c'est pour ça aussi que je pense que McLaren doit aussi continuer à le protéger, mais aussi justement dans ce moment difficile où lui-même a parlé de ses problèmes de santé mentale vis-à-vis du sport de haut niveau quand il est arrivé en Formule 1, c'est dans ce moment-là où c'est la première fois qu'il va pouvoir réellement se battre pour le titre mondial que McLaren doit l'aider aussi. Et que par le passé, en vrai, je prends l'exemple de McLaren par rapport à Daniel Ricciardo, dans les moments où Ricciardo est un pilote qui mentalement a besoin d'être soutenu et ainsi de suite, McLaren l'a laissé tomber comme le pire des mauvais pilotes,
une vieille chaussette
quoi, d'une certaine manière. Là aujourd'hui, McLaren doit pouvoir aider Lando Norris à se remettre dès le Grand Prix de Miami, parce qu'on sait qu'il a le talent. On rappelle même que McLaren l'a empêché de partir dans l'univers Red Bull. C'était
d'ailleurs pour ça qu'il est si bien payé, voilà, par rapport à Charles ou
aussi, à partir de cette saison 2025 de Formule 1. Donc pour toutes ces raisons-là, il faut vraiment que McLaren l'aide. Et on a le Grand Prix de Miami qui arrive, on sent que Lando Norris se complique la vie, non pas le dimanche, mais dès le samedi, parce qu'il a toujours le rythme pour aller gagner. Lando Norris, ces dimanches, ils sont quasi parfaits. Dans le Grand Prix d'Australie, où ça a été un moment extrêmement compliqué avec les conditions climatiques qui étaient complexes, il a réussi à gagner contre Max Verstappen, ce que n'a pas réussi à faire Oscar Piastri. Lando Norris a le talent, mais McLaren doit l'aider, et doit l'aider à se relever, parce que Lando Norris peut gagner ce championnat du monde.
Vas-y Jean-Luc.
Ouais, j'allais dire, il y a une deuxième raison, et tu as parfaitement raison dans ce que tu dis, Alex, mais c'est le titre constructeur. Parce qu'on a bien vu qu'avec un pilote, tu t'en sors pas, donc ils ont absolument tout intérêt à ce que le deuxième pilote performe et prenne des points aux autres. Tu vois, ça commence à être cruel de dire ça, mais c'est le cas. La Norris, il est devant les deux Mercedes, je vais dire au championnat constructeur, le Zach Brown, il est content, hein, puisque McLaren prend 37 points sur ce Grand Prix, c'est eux qui en prennent le plus, hein. La Scuderia en prend 21 et les deux autres 18. Donc voilà, on a besoin des deux pilotes, donc ne serait que pour ça, il faut continuer évidemment à soutenir Norris, bien sûr.
Sur ce cas de figure,
bien sûr,
d'ailleurs,
mais ils vont pas.
D'ailleurs, Jean-Luc, c'est qu'en fait, du coup, ça m'a coupé la chic, figure-toi, Nico.
Ça va revenir. T'es jeune, on y croit.
Ce que je peux me rajouter par rapport à les données, c'est l'erreur qu'il fait à Jeddah en séance de qualification. Ça va, c'est pas la pire des erreurs. Il est proche des murs. Il en fait trop, effectivement, le samedi, mais c'est réparable. Il y a une chance aussi par rapport au passé, c'est qu'à l'époque, on n'avait que 16 Grands Prix. Là, on en a 24. Tu fais une erreur sur un week-end de Grand Prix, et en plus, il termine quatrième. Ça pèse nettement moins. Il se rattrapera dès le Grand Prix de Miami, et je pense qu'il le pourra parce qu'il en a le talent.
C'est revenu, Nico.
Vas-y.
Ah,
je t'ai rendu la place,
J'ai champagne.
On va fêter ça, j'annule le scanner. Je disais, pour l'histoire des deux pilotes, c'est que la petite chance de McLaren, c'est que cette année, leurs concurrents aussi fonctionnent un peu à un pilote. C'est-à-dire que tu as vraiment un pilote qui ramène beaucoup plus de points que l'autre, et qu'il n'y a pas une écurie qui, à la manière de McLaren l'année dernière, scorait à deux tout le temps très fort et venait. venait faire compète à.
Mon Louis, c'est pas pour te contredire, mais Antonelli, il est là quand même.
Oui, hein. Mercedes, c'est vrai que.
Ah ouais, j'allais dire les Mercedes.
Il est, sincèrement, hein.
Il est là.
Attends,
il est
c'est
là.
Un rookie.
Mais
c'est
il
est un rookie,
ouais,
le gars.
Ah non, mais moi, je pense que justement, il faut voir comment ça évolue et que dans 6 mois, il sera peut-être là. D'ailleurs, je pensais à eux sur ceux qui pouvaient être deux. Mais pour le moment, il est quand même en retrait de Russell. Il est pas loin derrière, mais il est en retrait. Et alors, je sais pourquoi Norris, il est pas bien en ce moment. Ça y est, ça m'est revenu comme un flash.
Je sais ce que tu veux dire. United
non, ah non, pas United. United aussi, mais depuis qu'ils lui ont pété sa F40 là, à Monaco.
Ah oui, c'est vrai qu'il y a eu un accident.
Ouais, sur la corniche.
Il a
vu
la facture de réparation et depuis, il est détruit, le gars.
Ouais. C'était qui? C'était son frère qui était au volant, je crois.
Plus, ouais,
c'est son frère qui a planté la Ferrari, il me semble. Bref.
Mais non, en fait, c'est son frère qui a endossé, mais c'était lui. Il s'est pris le mur, il s'est pris le mur comme un
Jedi. C'est peut-être son frère aussi dans la voiture depuis Grand Prix de Chine aussi.
Voilà. Excellent.
Et après, tu me parles de bashing après ce que tu viens de lui mettre. C'est horrible.
Bravo. Et après, il pleure et dit: oh, ils sont durs avec lui. Bah oui, t'as raison. Et j'ai compris, c'est Nando Norris. Nando qui est là.
On va lui donner la parole à Lando Norris. C'était avec Canal Plus, avec toujours Charlotte Gabas. Écoutez-le.
Was it the best you could do today?
Est-ce que c'était mieux que vous pouviez faire aujourd'hui?
No, 9 seconds off the lead, I think is a good effort from where I started.
Finir 9 secondes du leader, je pense que c'est un bon résultat vu d'où je suis parti, donc en tenant compte de l'importance de l'air libre et du fait qu'à chaque fois que j'étais en tête, le rythme était bien meilleur. Je rêve chaque nuit d'être devant, je ne vais pas vous mentir, et d'avoir une course aussi facile qu'Oscar, mais je dois juste travailler sur moi-même et surtout travailler mes samedis, arrêter de me compliquer la vie. Je pense qu'aujourd'hui ça restait le meilleur résultat possible. Là tout de suite j'ai besoin d'une pause, je vous avoue, je vais aller boire de l'eau, mais là c'est vrai qu'en ce moment j'ai besoin de faire une pause.
Il est honnête, moi j'aime bien cette honnêteté. Hein. Il absente une pause, voilà, il y a 2 semaines, heureusement cette pause arrive au meilleur des moments.
Mais il est sympa, le gars, on peut pas le critiquer non plus, encore une fois. Les critiques dures, c'est terrible, ça, comme tu dis, le bashing, moi, je déteste ça, on va pas le jeter aux orties. C'est un très bon pilote. Là, bah, simplement, il est. Et puis en plus, il tombe sur un mec qui est meilleur que lui. Mmh. Bah, ça arrive à tout le monde, hein. C'est la vie. Hein. Alors, c'est à lui de prouver qu'il peut redresser la barre. Attends, il est quand même deuxième au championnat pour le moment, il
pour
a 10 points d'écart.
Points, hein. Ouais,
il reste 19 grands prix, ça va, c'est
critiques,
pas mort.
Les critiques, faut les mettre en perspective avec l'objectif de devenir champion du monde.
Voilà,
c'est même
sûr.
Pas
voilà,
une question d'être bon pilote. Les 20, on l'a dit la semaine dernière, il n'y a plus de fautes en ce moment. Il n'y a plus de boulettes. Alors Tsunoda nous fait un week-end un peu étrange, mais enfin voilà, c'est des choses. Mais il n'y a plus de gros machins à la Latifi, à autre. Les mecs qui sont sur cette grille sont tous de très bons pilotes. Après, quand tu as Piastri dans ton équipe et que vous avez la même voiture et qu'on t'attendait toi plus que lui, c'est normal qu'on se dise bah, pour le moment, il n'est pas au niveau. Mais voilà.
Mais c'est tout.
La pression est différente.
J'allais vous poser une question, mais je vais attendre quand même de parler de Ferrari avant de vous la poser. Je la garde.
Ça va être sur Hamilton, cette question.
Non, même pas. Mais parlons de la Scuderia. Parlons du premier podium de la saison de Charles Leclerc. Jean-Luc, on a senti un Charles soulagé. Un peu dépité encore après la qualif, et même Fred Vasseur a dit après la 4e place, ouais voilà, il est à chaud, parce que Charles disait que ça allait être difficile pour lui le dimanche d'aller chercher mieux, et finalement il a fait une super course avec notamment un premier relais de très grande qualité. Ça peut être un petit déclic là pour toi, pour Leclerc, ce podium, Jean-Luc?
Ah bah oui, écoute, il y avait un débat dans les GG du sport, là, dimanche matin, tu vois, c'était: est-ce que c'est la cata déjà pour Ferrari, est-ce que c'est une année épouvantable et tout? Évidemment, j'ai répondu non, comme Marion Bartoli, vous le savez bien, vous savez pourquoi, parce qu'évidemment, elle adore son Lewis, on l'aime tous d'ailleurs, mais bon. Donc là, pourquoi dépiter Charles? Parce qu'il fait... Lui, il considère qu'il fait un tour de folie, un tour qui aurait pu lui valoir une pole avec une meilleure monoplace. Bon, là, il termine à 3 dixièmes, il se dit « Ah, ben, j'ai beau donner tout ce que je peux, là, pour le moment, on n'y est pas ». Donc, ce qu'il déprime, c'est qu'il n'a pas la monoplace pour se battre pour la pole, effectivement, alors que, encore une fois, il en a quand même aligné un paquet, un 26 de mémoire, donc c'est quand même pas rien. Ça veut dire que c'est un type extrêmement rapide. Dès qu'il a le matériel entre les mains, ben, quand il l'a pas, il fait ce qu'il peut. Donc, il est déprimé, il se dit « Bon, allez, ça va encore être une course au pied du podium. Et puis finalement en course, ça renaît. Lui aussi, il a un rendement. D'abord, il fait un boulot absolument considérable. Hein. Et ça y est, je vais vous le sortir. C'est maintenant l'heure des temps autour. Lui, 1:32.192 au 49e tour. Au moment où justement Verstappen fait 1:32.280, donc il lui colle un dixième au même moment. Et au moment où Oscar Piastri, qui est en train de se battre pour rester devant, 1:32.228. Donc la Ferrari et Charles Leclerc dedans en course, bah c'est bon. Ça y est, on n'est pas loin du compte. Et puis, pas trop de dégradation des pneus. Il fait un premier stint, vous l'avez vu, vachement long. Hein. Il arrive à maintenir les pneus en vie pendant 30 tours, alors que les autres se sont arrêtés depuis un moment. Bon, il fait le boulot. Là, il y a une vraie lueur d'espoir. Puis un podium, c'est quand même le premier de la saison. Donc oui, Ferrari, alors c'est un peu trop tôt pour le crier très fort, mais peut-être voit un peu la sortie du tunnel. Et encore un élément majeur qui me fait dire que je reste optimiste pour ce Grand Prix-là et pour les Grands Prix à venir, parce que la Scuderia peut revenir dans le coup. Et là, vous n'allez pas pleurer. Si on a une belle bataille à 3, voire à 4, parce que là, il y a un faux pas de Mercedes et de Russell, on en reparlera. Mais bon, c'est génial, quoi. Un baston à 4 ou 5 avec 4 équipes différentes, c'est absolument fabuleux.
Il y a Helmut Marko qui est
un joueur. C'est ce que j'allais dire, c'est Zagrone.
Dès que je dis des conneries, il me rappelle. Ouais, tu sais ce que c'est. Helmut, mon vieux nom. Non, je refuse de signer comme consultant.
on écoute Charles Leclerc après la course avec Canal. Toujours.
Oui, enfin, je suis content de la perfo aujourd'hui. Vraiment, ça a été une course extrêmement bonne de tout point de vue. Les pit stops depuis le début de l'année, ça a été exceptionnel de la part des mécanos et bravo à eux. C'est vrai qu'on parle souvent des pit stops quand il y a quelque chose qui se passe de mal, mais pas souvent quand ça se passe bien. Et pour l'instant, sur ça, on est en train de dominer. En tout cas, les mécanos sont en train de le faire et ça, c'est bravo à eux. Niveau stratégie, on a été parfait aussi aujourd'hui. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est juste la performance générale. Malheureusement, on n'a pas encore la perfo des McLaren, des Red Bull, des Mercedes, surtout en qualif. Aujourd'hui, en course, on est bien. Je pense que notre point positif en course, c'est la dégradation des pneus, ce qui compense un petit peu le fait que la performance de la voiture ne soit pas exactement là où j'aimerais qu'elle soit. Mais bon, voilà, une fois qu'on sera plus proche en qualif, je pense qu'on peut faire de très bonnes courses.
En fait, Louis, ce qui leur manque maintenant, c'est le week-end régulier, quoi. C'est de la régularité sur tout le week-end et un week-end de plein.
Ouais, l'expression consacrée en F1 du week-end ou du tour où tu mets tout dans l'ordre. Bah là, c'est au niveau du week-end qu'il faudra mettre tout dans l'ordre. Et je pense que c'est ce qui leur manque un peu, partir dans le bon sens dès la première minute des FP1 et faire un week-end qui remet en confiance tout le monde. Et je pense que ils en ont pas mal besoin, surtout d'un côté du garage, celui d'Hamilton, où là, clairement, toute l'effervescence du début d'année est retombée. Cette course sprint est un doux mirage qu'on a presque tous oublié. Et on commence presque à s'inquiéter, c'est un peu tôt, mais à se dire, bah, l'année dernière, dans une voiture 3-4e, il se faisait battre par son coéquipier, il faisait plus de merveilles, même s'il a fait de très bonnes choses. Et est-ce que cette année, il n'est pas en train de faire ça? Et est-ce qu'on le reverra un jour au top? Moi, j'attends que ça. Hein. Je ne suis pas en train de détruire Hamilton, surtout pas. Et je pense qu'il faut justement encore un peu de patience. Et que si, comme tu le dis, la voiture revient au niveau des autres, peut-être que ça va lui donner l'étincelle pour refaire du grand Hammer Time. Mais en tout cas, du côté de chez Charles, on sait que ça fait déjà un moment maintenant qu'il est assez imperturbable et que, comme tu l'as dit, quand il a l'outil, il y a souvent la pôle. Donc, moi, j'ai hâte d'être dans deux semaines parce qu'ils ont besoin, ils ont clairement besoin de faire mieux qu'une troisième place.
Apparemment, il y a des évolutions majeures. Ouais, vas-y, Jean-Luc.
Ouais, pour appuyer, non, mais j'aime bien, tu sais, on chiffre, là, c'est le cas de le dire. Hamilton, il prend entre 5 et 6 dixièmes en qualif. C'est vraiment un gouffre. Hein.
Ouais,
rappelez-vous
beaucoup,
ce
hein.
qu'on disait de Lawson et de Tsunoda. Et en course, il prend 4 à 5 dixièmes. C'est énorme. C'est pas possible.
Je me demande comment on pouvait ne pas être inquiet quand même. Parce qu'on parle quand même de Lewis Hamilton.
Pour la Scuderia,
peut-être dans le déni.
Non, mais c'est pour la Scuderia, oui, d'une certaine manière. Parce que déjà, d'une, la Scuderia Ferrari qui ne joue pas le titre dès ce cinquième Grand Prix de la saison, moi, ça me pose problème. Ça me pose problème parce qu'on nous avait vendu justement une saison où Ferrari allait jouer le titre dès cette saison, notamment par rapport à l'arrivée de Lewis Hamilton. Où Lewis Hamilton vient chez Ferrari, pourquoi? Parce qu'il sait qu'il ne pourra plus gagner chez Mercedes et donc il pourra gagner chez Ferrari dès cette saison 2025 de Formule 1 et potentiellement de la nouvelle ère de la Formule 1 en 2026. Mais là, sur ce début de saison, on est sur un début du plus gros transfert de l'histoire de la Formule 1 qui n'est pas bon et presque qui n'est pas acceptable, non pas par la faute de Lewis Hamilton, mais aussi vis-à-vis de la Skoda Ferrari par rapport à cette voiture, cette SF25, qui est aujourd'hui très incomprise. Dans la dernière année de réglementation de cette ère de Formule 1, on a fait une totale nouvelle voiture qui est donc incomprise par justement la Skoda Ferrari pour débloquer le potentiel, mais donc forcément pour un pilote qui arrive dans l'univers de la Skoda Ferrari, bah il arrive dans un univers où l'écurie en tant que telle n'arrive pas à comprendre la voiture, et de lui dans le même temps il doit s'habituer à l'univers de la Skoda Ferrari, la manière de travailler, et aussi s'habituer à un tout nouvel système de travail, on va dire ça ainsi, dans la voiture pour le comportement et ainsi de suite, qui lui-même ne comprend pas et que l'écurie ne comprend pas. Mais aujourd'hui, pour le début de collaboration, n'est pas bon. Et même dans ses déclarations à Hamilton, j'ai vu de nouveau Lewis Hamilton 2024 chez Mercedes, où il dit il n'y a pas de solution, ce sera comme ça jusqu'à la fin de l'année, ce sera douloureux. Super,
ouais, je me fasse gratter un cerveau.
Pour la première fois, tu ressentais vraiment le spleen du gars. Quoi.
Ouais. Mais une fatalité. Donc, oui, effectivement, moi je suis très inquiet. Du côté de Charles Leclerc, ça va bien. Pourquoi ? Parce que lui, il connaît l'univers de la Skoda Ferrari, il est à la maison et il peut prendre, j'ai envie de dire, des initiatives qu'il peut connaître et il peut voir comment ça peut aller. Et ça a réussi, notamment à Bahreïn où il était pas loin du podium, et là à Jeddah où il a terminé sur le podium d'une manière qui l'a surprise aussi également par rapport au rythme qu'il a réussi à débloquer. Aujourd'hui, Leclerc est le sauveur de la Skoda Ferrari et Ferrari n'arrive pas à sauver Hamilton parce que Hamilton, bah, il est un petit peu perdu dans ce tout nouvel univers que Ferrari ne comprend pas non plus avec sa nouvelle voiture d'ailleurs.
Et puis un autre élément.
Leclerc est un petit peu. Leclerc et Verstappen, c'est un peu le même combat. C'est un peu les arbres qui cachent la forêt, quoi, peut-être, Jean-Luc.
Oui, c'est ça. Puis un autre élément qui est effectivement un petit peu inquiétant, c'est qu'on a fait le parallèle avec Carlos Sainz, qui est loin d'avoir le palmarès, et qui lui aussi a eu besoin d'un peu de temps pour comprendre comment fonctionnait l'équipe Williams et la Williams. Bah, ça y est. On peut dire qu'il a trouvé le mode d'emploi. Il fait une belle qualif, il fait un très beau Grand Prix. Et Lewis, tu me diras, oui, au classement, il est devant, mais enfin, il faut voir d'où il part. Sans l'enfoncer, on est obligé de le dire à chaque phrase, puis on va arrêter de faire ça. C'est un champion immense, il est formidable, mais depuis l'an dernier, il n'est plus vraiment. Et l'an dernier, il a été écrasé par Russell. Et là aussi, l'arbre qui cache la forêt, c'est sa victoire de Spa qui lui rapporte des points, là où Russell prend zéro, il faut quand même le rappeler. Ouais. On dit, il a gagné deux Grands Prix. Oui, mon œil. Il aurait dû en gagner qu'un. Bon, l'autre, il l'a gagné, ok, pour un kilo. Là aussi, c'est la vie, c'est le règlement, c'est comme ça, il n'y a rien à dire. Mais il ne le méritait pas sur le terrain. Bon, bah, là, c'est pareil. Donc, il avait une victoire. Et surtout, il a été outrageusement dominé par son équipier. Et c'est pire cette année. Là aussi, rappelez-vous ce qu'on a dit en début de saison et la fin de l'année dernière. On a dit, moi, je l'ai dit, j'assume. Non, bah, la référence, c'est Leclerc. Et quand il sera devant Leclerc, on en reparlera. Bah, il en est loin.
Je pense qu'Hamilton ne s'attendait strictement pas à avoir un début de saison aussi catastrophique, avec la double disqualification de Ferrari, donc la disqualification d'Hamilton, et puis là, il n'y a pas de rythme, il n'y a pas d'espérance, je veux dire, sur le prochain Grand Prix.
Il n'y a pas de niaque, exactement. Tu sens plus de rébellion, quoi. Ce que tu avais là sur les premières semaines où il était animé par un feu intérieur, tu sentais qu'il avait retrouvé quelque chose, là il ne l'a plus.
Puis il n'a pas été signé deux mois avant. Il n'est pas non plus. On ne l'a pas monté dans la voiture de Carlos, tu vois. Non, ils l'ont signé un an avant.
Ça fait quasiment 18 mois. Ouais.
Comme le dit Alex, quand tu réalises le plus grand transfert de l'histoire, je pense que Ferrari, ils auraient dû tout faire pour que ça se passe du mieux possible. Peut-être qu'ils l'ont fait et que c'est vraiment la voiture qui est impossible. Sauf que le garage d'à côté montre que, bon, elle n'est pas top, mais qu'on peut quand même l'emmener un peu plus loin que l'emmène Hamilton. Donc, c'est clairement dommage et c'est une déception pour tout le monde. C'est surtout ça.
C'est pour ça qu'à l'heure actuelle,
la question qui tue, pardon d'interrompre encore. Hein, et Sainz, s'il avait été dans la Ferrari cette année, il se passait quoi ? Et c'est tout, je m'arrête là.
Non, mais ça aurait été. Moi, je rejoins entièrement cet avis. Et puis d'ailleurs, comparaison entre Carlos Sainz et Lewis Hamilton sur les 5 premiers Grands Prix chacun dans la Skoda Ferrari, c'est vrai qu'Hamilton fait mieux que Carlos Sainz. Donc ça remet un petit peu aussi un avantage pour Lewis Hamilton.
T'étais pas dans la même.
Pas dans la même configuration.
T'étais pas dans la même configuration, exactement. Les gars, parlons un peu de Mercedes. Ça a été un peu plus dur pour Mercedes, Alex, sur ce Grand Prix. On a vu que Russell, pour la première fois, a un petit peu souffert. Antonelli, constant. Un petit peu derrière Russell, mais il est là, il ne fait pas de faute. Il met encore sa voiture dans les points. Voilà, pour un rookie, c'est encore fort. Hein, c'est ce que disait Jean-Luc. Il est toujours là, le jeune Antonelli. Mais malgré tout, là, ils ont semblé perdre un peu du terrain sur ce Grand Prix d'Arabie Saoudite.
C'est la maximisation de Mercedes. Hein. C'est la maximisation totale. Et puis, même si aujourd'hui, ils n'ont pas la meilleure voiture, et ils ne l'avaient pas depuis le début de la saison, il n'y avait pas le sentiment qu'ils pouvaient aller chercher une victoire Mercedes cette saison, du moins sur le début. En fait, c'est la maximisation. Moi, je suis très content, au-delà même de Russell, mais surtout d'Antonelli, qui a enfin montré un rythme de course qui peut être un petit peu plus au niveau de George Russell. Et on voit une progression qui est immensément constante, en fait. Une progression qui est très linéaire pour justement Andrea Kimantonelli, qui amène forcément une solidité vis-à-vis du duo de pilotes. On a un leader qui s'affirme de plus en plus, qui est devenu leader de Mercedes. Je suis désolé de le dire, mais par défaut, après le départ de Lewis Hamilton. Mais là, la question du par défaut, elle s'enlève pour devenir un vrai leader pour George Russell, qui va prolonger ce contrat avec Mercedes. Donc, bye bye Max Verstappen, et on va garder donc George Russell et Antonelli du côté de chez Mercedes. Et c'est logique, parce que là, on a une solidité de line-up vis-à-vis du court terme, mais également du long terme, pour permettre à Mercedes de retrouver le goût du titre, peut-être pas en 2025, bien sûr, même si au constructeur, je pense qu'il va y avoir quand même débat quand on arrivera à la mi-saison, je pense, parce que vu à quel point ils sont maximisés tout le temps à chaque Grand Prix pour aller chercher le maximum de points, ça peut potentiellement prétendre au titre constructeur cette saison. Mais pour la suite, pour l'avenir, ce Grand Prix d'Arabie Saoudite montre à quel point Mercedes a fait le bon choix en voulant garder Russell et Antonelli.
Ouais, parce que Jean-Luc, même quand ils sont moins bien au niveau de la voiture en termes de perf, les pilotes sont plutôt là. Voilà, alors il y a ce dépassement de Leclerc sur Russell qui a un peu plus galéré, mais malgré tout, 5 et 6 quoi.
Ah oui, non, mais écoute, ils font le boulot. Et puis quand même, je rappelle hein, la qualif de Russell, qui est exceptionnelle. Hein. Il rate la pole, pas de beaucoup, lui non plus. Une 27-407 à comparer, ou une 27-294 pour
même chose en Chine, hein. Même chose en Chine. Russell n'est pas loin de prendre la pole aussi. Hein.
Alors après, c'est vrai qu'effectivement, en course, c'est un poil moins bien. Et puis Antonelli, on vient de le dire, qu'il suit, mais comme son ombre, dans le bon sens du terme. Hein. Lui, il part cinquième, alors que Russell part troisième. Bon, il termine les deux 5 et 6. Alors on a vu qu'en course, c'est un peu moins bon, avec un excellent tour en course, effectivement, tu le soulignais il y a un instant, d'Antonelli. Non, là, c'est du solide, c'est du construit. On n'a peut-être pas la meilleure voiture du plateau, mais on est là. D'ailleurs, ça se voit au classement constructeur. Hein. Ils ont encore un paquet de points d'avance par rapport à Red Bull, et encore plus par rapport à Ferrari. C'est un très bon duo. D'ailleurs, Russell est serein aussi pour la reconduction de contrat. On en parle déjà. Hein. Il dit, moi, je fais le boulot. Moi, tant que j'enregistrerai des bons résultats, j'ai pas de raison d'avoir d'inquiétude. Et je crois que c'est vrai. Bon, là aussi, Toto a essayé de semer la perturbation avec, j'allais dire, la fourberie, mais sous ses grands sourires qu'on lui connaît, pour essayer d'appuyer sur Red Bull et de mettre encore un peu plus le bazar. Mais bon, l'offre qu'il avait fait ou pas fait d'ailleurs à Verstappen, elle peut pas être suivie d'effet. Et je pense que la bonne logique là aussi, tant qu'on a deux très bons pilotes comme ça, bon, Antonelli on n'en parle pas, encore une fois il l'a adopté, mais je pense que Russell il fait un sacré boulot, il est extrêmement solide. L'an dernier il fait un super résultat, je rappelle encore une fois, sans ce déclassement, bon, c'est toujours, il est au niveau de Sainz, hein, il est au quatrième rang du championnat. Non, écoute, bon, là ça va un peu moins bien sur ce Grand Prix, ça ira peut-être un peu mieux à Miami, hein, on verra ça.
Il est à 26 points d'Oscar Piastri au championnat du monde, George Russell, après 5 courses.
Je rajoute que d'ailleurs, Russell, c'est 10 top 5 consécutifs quand même.
Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Remarquable.
Je m'étais noté cette stat en plus.
C'est excellent.
Bien joué, bien vu. Louis, parlons de la course d'Isaac Hadjar, qui part P14. Voilà, une séance de qualif où c'est correct, mais on se disait qu'il aurait pu pousser un petit peu plus. Et puis en course, super départ. Il profite bien évidemment de l'incident entre Tsunoda et Gasly. La stratégie de Racing Bulls a été impeccable et il arrive à aller chercher ce point. Alors potentiellement en termes de rythme, il aurait peut-être pu aller chercher mieux. Il se retrouve bloqué par la stratégie des deux Williams, mais il fait encore une superbe course, Isaac. En fait, il nous surprend plus déjà après sa cinquième course. Et c'est ça qui est fort.
Ah ouais, non, il une super course, un super week-end, et ça fait plaisir Il a eu une course compliquée depuis le début de l'année, sinon il est vraiment, et encore compliqué, c'est un grand mot quand tu te rappelles que t'es rookie. Mais en fait, je dis compliqué parce que comme tu dis Nico, on attend déjà des choses de lui tellement il coche les cases, tellement il passe les paliers un à un. Et vraiment, c'est impressionnant. Évidemment, moi, ce que j'ai bien aimé ce week-end, c'est qu'il a vécu une nouvelle situation en F1, c'est-à-dire la frustration. C'est-à-dire, j'ai une voiture plus rapide que les deux mecs devant, je pourrais aller chercher entre 3 et 4 points de plus. Enfin, voilà. Et ben, il a vite compris ce qui se passait et il a pas fait de folie non plus, tu vois. Quand certains seraient peut-être tombés dans l'euphorie ou dans une mauvaise frustration, auraient commencé à peut-être aller chercher trop le dépassement et foutre un week-end en l'air.
Liam Lawson, par exemple, hein, je pense qu'aurait été dans la même situation, je pense que ça aurait été différent.
Exactement, en plus, il aurait été dans un truc, j'ai des trucs à prouver, vas-y, hop. Donc voilà, ça montre aussi qu'il est bien et que tout se passe bien. Et il est, en plus d'être très bon, il est intelligent dans sa manière de faire. Donc au top, franchement, on l'entend derrière à la fin, il dit j'ai vite compris ce qui se passait.
Tu sais quoi ?
Excuse-moi.
Allez, t'es parfait, t'es parfait, arrêt au stand, on écoute Isaac Hadjar.
En DOP1, c'est pas facile, je suis très content de ma course, je pense que comme au Japon, on peut pas faire mieux aujourd'hui parce que en partant 14, stratégie décalée, je réussis quand même à prendre un très bon premier tour. Et de là, je savais qu'on avait un bon coup à jouer, le rythme était très bon. Voilà, je pense qu'on a eu un pit stop un peu compliqué, mais à part ça, quand je suis sorti des stands, j'ai vu les deux Williams devant moi, je savais ce qui m'attendait, donc bon, pas de surprise. Ouais, les deux premiers tours, après que je sois sorti des stands, j'étais en train de fondre sur Alex. Je me suis dit, je vais finir P8, ça va être facile. Et après, j'ai réalisé, j'ai compris, et ça s'est pas fait. Donc bon, on aurait fait pareil, de toute façon, c'est la chose qu'il fallait faire pour eux, et... Moi, je m'en moque, j'ai fait le meilleur.
Ouais, parce que pour expliquer plus précisément la situation, donc il avait un rythme où il était plus rapide que Alex Albon, sauf que devant Albon, à la 8e place, c'était Carlos Sainz. C'est que Williams a demandé à Sainz de ralentir un petit peu son rythme pour qu'Albon puisse profiter du DRS de Sainz. Et donc, du coup, c'était impossible pour Hadjar derrière de dépasser et de prendre le meilleur sur Albon. Donc, stratégiquement, c'est bien fait. Jean-Luc, comment tu l'analyses ce week-end d'Isaac Hadjar qui arrive encore à faire de belles choses, parce que là, quand on regarde le classement, là, à part les Williams, dans le reste du monde, c'est lui qui s'en sort le mieux, une nouvelle fois, j'ai envie de te dire.
Oui, dans la lignée des quatre, je mets l'Australie à part, vous savez pourquoi, des quatre Grands Prix réalisés, c'est du bon boulot. Attention quand même, Lawson était devant en qualif, il faut le rappeler, pour 2/10. Donc Lawson est parti 12 et Isaac 14. Et puis on avait une stratégie décalée, ce qu'il a rappelé lui-même, médium pour Lawson et donc les durs pour Hadjar, ce qui lui permet d'aller jusqu'au 35e tour. Donc c'était une belle stratégie compte tenu d'où il partait. Bon, on enlève, je dirais quand même, trois voitures, puisque Lawson, il se prend 10 secondes de pénalité pour avoir eu un gain en sortant de la piste.
Quelle blague d'ailleurs, ça. Donc,
ouais, c'est une blague. Ouais. Et puis les deux éliminés, vous le savez bien, Tsunoda. Donc, c'est bien. Voilà, c'est bien, il fait une belle course, solide, il ne commet pas d'erreur. Encore une fois, c'est tout ce qu'on peut lui... Moi, tu sais, pour le moment, je refuse de trop le porter au nu pour ne pas le brûler, une fois. Il faut préserver, il ne faut pas qu'il prenne la tête malgré lui non plus. Ça y est, j'ai tout compris, maintenant c'est bon. Non, il a un équipier, ça y est, qui a à peu près récupéré de son traumatisme, quand même. Parce qu'en retombant de Red Bull, là, il avait pris une baigne mais monumentale, le Lawson. Là, il est en train de démontrer, parce qu'il fait une très bonne qualif et une course correcte, à part cette pénalité, mais autrement, ils sont ensemble, c'est très bien. Et il l'a dit d'ailleurs lui-même, Isaac, il est poussé maintenant par Lawson. C'est comme ça qu'on fait les beaux résultats, qu'on fait les belles équipes et qu'on apprend. Donc, écoute, c'est bien, c'est très bien même. Il faut continuer comme ça. Voilà, j'ai pas grand-chose de plus à dire.
Ouais. On termine ce podcast, les gars. Des regrets pour Pierre Gasly, Alex, qui se fait sortir par Tsunoda. Alors après, bon, les deux pilotes ont des versions différentes, mais on a la sensation que Gasly a quand même une demi-voiture d'avance sur Tsunoda et qu'il peut pas faire grand-chose et que c'est Yuki qui le pousse dehors.
C'est un incident du premier tour, surtout à Jeddah où les murs sont extrêmement proches pour des paquebots que sont les Formule 1 aujourd'hui. Mais ouais, c'est moi, le crash de Pierre Gasly me faisait dire que ça pouvait peut-être permettre à Jack Doohan d'élever son niveau et de quand une voiture, quand son coéquipier qui est leader s'en va, on attend surtout la deuxième voiture pour potentiellement aller chercher les points. Puis c'est pas arrivé, donc moi c'était plus le regard sur Jack Doohan que je me disais bon, là faut quand même un peu trouver des solutions et montrer qu'on peut potentiellement se rapprocher des points, ce qui n'a pas réussi en facturant tout au long de ce Grand Prix. Donc c'est encore
17e,
une fois,
hein, Jack Doohan,
c'est un exercice
et sur 18, arrivé 17,
ouais. Et sur 18, hein, sur un exercice, donc c'est un exercice sur lequel on attendait. Il était très loin de réussir, donc c'est encore trop loin pour Doohan. Et puis pour Pierre Gasly, malheureusement, c'est surtout vis-à-vis d'Alpine, hein, parce que c'est le leader et il y avait des points à aller chercher pour une voiture qui est capable d'aller chercher des points, surtout sur Jeddah, sachant que l'Alpine, si je me trompe pas, a fait quand même top 1 sur une séance d'essai libre à Jeddah.
Oui, la première, ouais, incroyable.
Lunaire,
c'est Doohan qui l'a fait.
Surtout avec un moteur Renault, où c'est compliqué cette saison aussi du point de vue de la puissance. Donc, ouais,
oui, on
c'est
va le jeter
beaucoup,
à la poubelle,
beaucoup de
regrets, je te rassure.
Ouais, non, mais il y a beaucoup de regrets à avoir pour Gasly.
De toute manière, Jack Doohan, on est d'accord pour le dire qu'on le revoit dans une Formule 1 ou pas?
Oui.
Si, changement à Miami.
Normalement, oui.
Ce qui est assez, assez étonnant, c'est que visiblement, il y a des gens en interne du côté de chez Alpine qui ont poussé pour garder Jack Doohan parce que ils trouvaient que ça servait à rien d'enlever Doohan pour mettre un Colapinto parce que de toute façon, la voiture n'est pas assez bonne. Donc bon.
Ok. Bon, bah, tant mieux pour lui, hein, parce que
mieux pour lui. Bah, il mérite pas d'être viré comme ça non plus. Hein. Surtout qu'on l'avait plombé dès la fin de la saison dernière en le mettant au dernier moment. Tiens, bah, t'as du temps, t'as rien à faire là. Bah, tiens, saute dans le paquet.
Mais sur Gasly, sur Gasly, Nico, son interview après Grand Prix, où il est très rond dans sa manière de commenter le contact et le crash Tsunoda, avec Tsunoda. Tu sens que c'est parce que c'est Tsunoda et qu'ils s'entendent très bien.
Ils s'entendent bien, ouais.
Et qu'ils ont une histoire commune quand ils étaient chez AlphaTauri. Je pense qu'il aurait été un peu plus cash si ça avait été un autre pilote, parce que je l'ai trouvé vraiment très, très mesuré.
Si ça avait été Stroll, par exemple.
Voilà, par exemple.
Si ça avait été Esteban.
Ou Sainz.
Ou Esteban, ouais, t'as raison.
Ah, Esteban, d'ailleurs, terrible. Hein, terrible.
Ah ouais.
Là, c'est dur.
Ouais,
d'ailleurs,
difficile.
Comment il a déjà 14 points après un début pareil, c'est presque un miracle.
Ouais. Stroll aussi, hein.
Oui.
Attendez, Stroll top 10, champion de pilote, hein, qui a tous les points d'Aston Martin, hein, c'est vraiment le sauveur comme Verstappen.
C'est Esteban qui se qualifie P18, se qualifie P18, je crois, hein, Ocon, et du coup il termine 14e, Berman 13e, ça a été compliqué. Mais t'as l'impression que Léa c'est un peu tout ou rien, quoi. C'est soit
moi,
c'est un week-end où t'arrives à mettre les deux voitures dans les points.
Ce qui m'inquiète un peu plus précisément, c'est que certes ils sont pas bien, et Esteban, le problème c'est qu'il est encore moins bien que Berman. C'est ça qui m'inquiète.
Ouais, il se fait dominer en qualif. Ouais. Il se fait dominer en qualif,
et
mais
et
il arrive.
Course,
ouais, c'est vrai.
Alors, il n'y a pas dit son dernier mot, hein, mais.
Mais bon, allez, Miami arrive, week-end de course sprint, on verra Haas dans les points. Allez.
Après, après même s'il est dominé, et c'est ça qui est un peu paradoxal, que ce que tu disais, lui, dans la saison d'Esteban Ocon, c'est que même s'il peut paraître dominé, il a 14 points, alors que Berman n'en a que 6.
Il en a que 6.
Ah, parce qu'il en prend 10 d'un coup en Chine.
Il en prend 10 d'un coup en Chine.
Bravo.
Alpine qui marque énormément de points au Brésil, termine 5e, c'était complètement surgonflé. Et là, ils ont une voiture qui est peut-être, alors peut-être pas 5, mais peut-être 6-7, et ils perdent des points tous les week-ends, plus ou moins bêtement, et du coup, ils sont 9e, et bien comme il faut.
Ressort même par rapport à cette saison 2025. Alors je sais qu'on doit terminer, mais c'est que on a une convergence de performance absolument phénoménale, que ce soit dans le haut du haut de la grille entre Verstappen et McLaren, et les top teams aussi qui se bataillent pour aller chercher une deuxième, troisième place de constructeur. Et derrière, dans la bataille du midfield, c'est phénoménal de voir à quel point toutes les équipes peuvent prétendre à aller chercher 8e, 9e ou 10e place. Et c'est moi, c'est une régalade, franchement, cette saison 2025, hein, de tous les côtés.
La Q2 est dingue.
C'est vrai qu'on se régale. Tiens, Jean-Luc, je voulais vous poser quand même une dernière question là avant de terminer le podcast. C'est qui le grand gagnant? Bon, je connais la réponse un peu, mais les gagnants de ce triple header là, de ce premier triple header, de ces trois semaines de course en trois semaines, pardon.
Bonne question.
Ah bah écoute, alors moi je dis évidemment Piastri, hein, avec deux victoires successives, il domine son équipier, il prend la tête du championnat, évidemment McLaren, hein, on peut citer une équipe comme winner, et puis forcément Verstappen qui arrive à en décrocher une, la première sur un circuit de référence, moi je dirais Piastri, McLaren et Verstappen, voilà les trois winners.
Les gars,
je pense que je mettrais Piastri, Verstappen, et j'ai envie de mettre Hadjar, mais j'ai plus envie de mettre Alexander Albon, moi. Parce que
ouais,
Albon,
c'est vrai qu'avec
Albon avec Williams, je pense que c'est peut-être l'un des débuts de saison les plus sous, même au-delà sur les 5 premiers Grands Prix, l'un des plus sous-côté, parce qu'il produit une performance avec McLaren très régulière. 20 points. 8e au championnat du monde pilote, si je ne me trompe pas. Il est très bon début de saison. Hein.
Je suis mes collègues sur les deux évidences, on va dire, qui sont Piastri et Verstappen. Et moi, je mettrais Russell, qui a, quelques semaines, il y avait des petits bruits. Est-ce que Russell est celui qu'on avait annoncé? Il est en fin de contrat. Verstappen, tout ça. On se demandait même s'il n'allait pas commencer à être celui qui allait peut-être pas garder son baquet ou quoi. Et en quelques semaines, des grosses performances, les choses mises en place. Avec Kimi, ça se passe bien, mais je suis devant. Donc je montre aussi que voilà, et je trouve qu'à la fin de ce triple header, comme vous l'avez dit, il a presque le stylo en main.
Ouais.
Et donc il est passé de siège éjectable à stylo en main. Je pense que, alors ça peut, du coup ça va tellement vite que ça se trouve ça peut réévoluer, mais je pense que il peut faire partie du trio de gagnants de ce triple header.
Fernando Alonso aussi, très bon début de saison.
Oh, le pauvre, ça fait mal au cœur.
Non, mais il est pas sur les circuits.
Il a failli se faire cartonner par son poulain Bortoletto quand même. Alors ça, c'est énorme.
Alors, ça aurait été le pinacle. Là,
il a une trapanelle. Puis on a dit chez Aston que vraiment, Newey, il bosse sur 2026. Il ne bossera pas sur 2025. Donc, c'est pas possible.
J'espère surtout qu'il bosse jour et nuit.
Elle va être longue la saison.
La saison risque
le dossier Aston sera intéressant à regarder quand même de plus près.
Et vous savez quoi, on va l'ouvrir, on le gardera là pour un warm-up ou pour une semaine où on a un peu moins d'actu, et on se fera un dossier Aston Martin. Ouais, mais il y aura peut-être des infos en plus qui vont fuiter sur 2026, sur le boulot de Newey, mais c'est vrai que va falloir vraiment s'intéresser à cette écurie. Les gars, merci beaucoup. Moi je me suis régalé dans ce débrief. Jean-Luc, on a raison.
3,5, 375,
ça allait valer les 3,5. N'oubliez pas de partager le podcast. N'oubliez pas les petites notes. Et on vous donne rendez-vous pour le Grand Prix de Miami. Je crois que le warm-up, ce sera le jeudi 1er mai. Voilà, c'est le week-end du 2 mai, le Grand Prix. Et nous, on vous enregistre le petit warm-up. Comme d'hab, vous restez connectés, vous activez les petites notifications. Et on vous dit à très vite. Vive la Formule 1 sur RMC. Bye bye.
Ciao, ciao.
Salut à tous.
Le paddock RMC.